J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait ça, c'est bon.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et vous écoutez la radio, Radio Grand Air, votre émission mensuelle et également chaque semaine, parce que c'est pas que sur un mois, hein, toutes les semaines on le retrouve sur la radio. Et on arrive déjà à la 108e, évidemment, c'est le monde du cinéma qu'on adore ici à la radio, avec notre cher ami Pascal. Comment ça va, Pascal ?
Bonjour Christophe, ça va super bien.
Bon,
bonjour,
c'est l'essentiel.
Aussi, c'est l'essentiel, bien sûr. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air, soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 108 d'Entracte. Un numéro spécial.
Un numéro spécial. Allons-y.
Et pourquoi alors il est spécial celui-ci ?
Parce qu'on va parler de films.
Mais non, parce qu'on va... mais bien sûr, on va parler de plein de films. Mais c'est le dernier de la saison.
Exactement, voilà, c'est la dernière émission de la saison. 108, c'est bien, c'est un chiffre.
C'est un bon chiffre.
Voilà, ça sera les vacances après.
Et oui, tout le monde débraille là, c'est la trêve des confiseurs.
Exactement, exactement.
Oui, on va passer à l'été, on va passer à...
Et quand vous allez partir en vacances,
à autre chose.
Pensez à partir avec vos podcasts de l'émission, en direct, histoire de... d'écouter sur la plage, Pascal.
Exportez-les ailleurs.
Exactement. Précise, c'est un concept Pascal. Hein.
Ah oui. En tout cas, il y a plein de films cette semaine, évidemment. Pourquoi ? Alors déjà, la semaine dernière, j'avais parlé de la fête du cinéma.
Et oui, c'est l'été, alors on y va.
Là, on y est. Il y a plein de choix. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Je vous ai énuméré tous ces films-là, tous les films qu'on va passer. Hein. Alors cette semaine, je vous ai sélectionné 7 films. J'espère que ça va passer dans l'heure.
Parce que, ça va y aller.
Quand j'ai filmé Paplard, je me suis dit, bon là, je me suis un peu enflammé. Un petit peu quand même. Puis, on va se calmer. Voilà. Donc oui, il y a 7 films. J'en ai rajouté un en dernière minute.
Ils sont tous bons les films, donc c'est normal.
Oui, bien sûr. Mais j'en ai rajouté un à la dernière minute parce que c'est important d'en parler. J'ai rajouté Horizon, à l'arrache, tu vois. Je l'ai rajouté un petit peu. Mais parce que, évidemment, ça sera le film de Kevin Costner, évidemment, dont on a parlé la semaine dernière. Hein,
absolument. Un film, on attend évidemment le retour sur ce film.
Oui.
Mais oui, déjà, quand on voit la bande-annonce...
Mais après, moi, il me tarde de le voir. Mais après, il y a deux gros films, là, mine de rien. On va déjà commencer. Alors, pardon. On va commencer par le début, hein, ça sera plus chouette. Alors cette semaine, j'ai 7 films. On va parler du dernier, la dernière création de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, qui ont déjà œuvré sur les Trois Mousquetaires. On va parler du Comte de Monte Cristo. Là, ça fait un gros carton. Alors c'est marrant, la bizarrerie.
Quelle année l'histoire se passe en quelle année?
1840.
Ouais.
Oui, c'est sous Louis XVIII.
Très bien.
Oui, donc le Comte de Monte Cristo, évidemment. Alors cette année, la bizarrerie, c'est que c'est un des premiers films que je vois qui sort un vendredi. Et oui, comme aux États-Unis.
Ben oui, c'est peut-être avant les vacances, là.
Je sais pas, c'est du marketing, un peu spécial, tout ça. Voilà, ouais. Mais voilà, aux États-Unis, les films sortent le vendredi.
Mais généralement, c'est quand? C'est le mardi?
En France, c'est le mercredi.
Mercredi,
depuis des décennies, d'ailleurs. Mm-hmm. On va parler aussi du film de Jessica Palu, Maria, ainsi que du dernier film de Laurence Arnay, la comédie avec Danny Boone, La famille Hendrix. Là, une comédie légère et tout pour se marrer, hein, en début d'été. On va parler aussi d'un film catastrophe de Mikhail Sarnouchi, Sans un bruit.
Un film
catastrophe d'épouvante et tout.
Ouais, ça fait peur.
Ainsi que du film de Ishana Shyamalan, qui n'est autre que la fille... du célèbre réalisateur Monsieur Shyamalan, le roi du suspense. On va parler des guetteurs. On va parler aussi, on va partir en Pologne. On va parler du dernier film de Malgorzata Szumowska. C'est ici hyper dur à prononcer.
Bah oui, j'imagine. Ouais.
Une autre vie que la mienne. On va parler de transgenre là, par contre.
Ouais.
Et évidemment, en septième position, évidemment, on va parler du dernier film de Kevin Costner, donc Horizon.
Qui va porter sur la guerre de sécession. De voilà. Sécession.
Ouais. C'est une saga, donc ça commence 15 années avant.
Ouais, d'accord.
On va passer par la guerre civile américaine, et puis après, ça va se développer un petit peu après. Hein.
Mm-hmm.
Donc voilà, donc du pain sur la planche, beaucoup de films.
Bah, écoute, t'as bien bossé, Pascal, avant de partir en vacances, et tes devoirs de vacances sont faits, c'est bien.
Alors, on va parler du Comte de Monte Cristo, un film français de 2h58. Alors, à chaque fois, il y a des gros pavés.
J'adore cette ambiance, les décors, je suis impatient de voir ça.
Alors, je ne vais pas vous spoiler le film, évidemment. Moi, j'ai vu le début du film, parce que je suis obligé de faire des essais dessus.
C'est l'avantage, effectivement, de travailler dans un cinéma.
Alors, j'ai eu la peine de sortir de la salle. De parenthèse, parce que j'étais scotché. Hein.
Ah ouais. Bon,
déjà par la réalisation, les costumes.
Ah ouais, t'es vraiment pris dans
le
l'époque.
Décor, hein. Le décor, au moment où on voit le port, je pense que c'est le port de Marseille qu'on voit, il me semble.
Mm-hmm.
Il me semble. Mais le port de Marseille du temps de la marine à voile. C'est hallucinant, c'est complètement hallucinant. C'est très très beau. Hein. Puis franchement, c'est fait en scope, donc t'as du grand angle et tout, c'est dedans.
Ah, t'es vraiment dans l'époque.
Oh,
hein.
Mais j'ai assisté à la scène, tu sais, où t'as. Edmond Dantès qui devient capitaine du navire au détriment du vrai capitaine qui se fait virer et tout. Donc ça se passe dans des grands immeubles du 19e siècle et tout. Mais la scène est superbe. La scène est superbe. Donc ça annonce vraiment un grand film. Donc 258 évidemment, donc aventure historique. Au niveau des acteurs, on va retrouver Pierre Ninet, Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier, Anna Maria Vartolomei, Laurent Lafitte, Pierre Franco Favino, Patrick Mill et Vassili Schneider. Alors évidemment, c'est l'histoire d'Edmond Dantès qui est accusé à tort
de
ce qu'il n'a pas commis.
Oui.
Donc victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger de trois hommes qui l'ont trahi.
Alors, je pense que tu vas aborder la partie technique dans quelques instants.
Ah non, la partie littéraire.
D'accord, la partie littéraire. Mais,
et oui.
Je reviendrai sur la partie technique.
D'accord.
Parce qu'il a quand même fait un gros entraînement de plongée, notre ami.
Oh ben oui, parce qu'il y a des sacrées scènes sous l'eau au début, surtout du naufrage du navire au début.
Oui.
Ouais. Alors on va revenir sur le évidemment c'est tiré d'un Raymond de Raymond
oui,
non
vrai,
non
oui.
Monsieur
presque
il s'appelle pas Raymond c'est Alexandre donc c'est tiré d'un roman d'Alexandre Dumas. Il a été écrit avec la collaboration d'Auguste Maquet et dont la publication commence durant l'été 1844. Mm-hmm. Donc là on est vraiment sous Louis XVIII. Il est partiellement inspiré du récit d'un fait divers donc titré donc le diamant et la vengeance publié en 1838 dans les mémoires tirées des archives de la police tome 5.
Oui, d'accord.
Ouais. Donc, mémoire apocryphe est rédigé en large partie par l'écrivain Étienne Léon de Lamotte-Langon à partir des notes de Jacques Peuchet, archiviste de la préfecture de police. Voilà d'où vient l'origine.
C'est intéressant.
Du
ça.
Roman. Ouais. Et cet ouvrage est, avec Les Trois Mousquetaires, l'une des œuvres les plus connues de l'écrivain, tant en France qu'à l'étranger. C'est un carton à l'étranger, le Comte de Monte Cristo. Il a d'abord été publié en feuilleton, tu vois, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure hors antenne.
Mm-hmm.
Il est publié en feuilleton dans le journal des débats du 28 août au 19 octobre 1844. Et pour la première partie, et du 31 octobre au 26 novembre 1844 pour la deuxième partie. Puis finalement, du 20 juin 1845 au 15 janvier 1846 pour la troisième partie. Et voilà ce que nous dit Alexandre Dumas au sujet de cette création. De son écriture. Comme il m'était aussi égal de faire un roman que des impressions de voyage, je me mis à chercher une espèce d'intrigue pour le livre de Monsieur Béthune et Plon. Bon, déjà, Plon, c'était déjà l'éditeur, tu vois. Il était déjà là. J'avais depuis longtemps fait une corne dans la police, c'est le titre, La police dévoilée en 1838, de Jacques Peuchet, à une anecdote d'une vingtaine de pages intitulée Le diamant et la vengeance. Tel que cela était, c'était tout simplement idiot. Si l'on en doute, on peut lire. Il n'en est pas moins vrai qu'au fond de cette huître, il y avait une perle. Perle informe, perle brute, perle sans valeur aucune et qui attendait son lapidaire. Je résolus d'appliquer aux impressions de voyage dans Paris l'intrigue que je tirerai de cette anecdote. Je me mise en conséquence à ce travail de tête qui précède toujours chez moi le travail matériel et définitif. La première intrigue était celle-ci. Un seigneur très riche habitant Rome et se nommant le comte de Monte Cristo rendrait un grand service à un jeune voyageur français et en échange de ce service, le prierait de lui servir de guide quand à son tour, il visiterait Paris. Cette visite à Paris, ou plutôt dans Paris, aurait pour apparence la curiosité, pour réalité, la vengeance. Dans ses courses à travers Paris, le comte de Monte Cristo devait découvrir ses ennemis cachés qui l'avaient condamné dans sa jeunesse à une captivité de 10 ans. Sa fortune devait lui fournir ses moyens de vengeance. Je commençais l'ouvrage sur cette base et j'en fis ainsi un volume et demi, à peu près. Dans ce volume et demi étaient comprises toutes les aventures à Rome d'Albert de Morcerf et de Franz d'Épinay jusqu'à l'arrivée du comte de Monte Cristo à Paris. J'en étais là de mon travail lorsque j'en parlais à Maquet avec lequel j'avais déjà travaillé en collaboration. Je lui racontais ce qu'il y avait déjà de fait et ce qui restait à faire. Voilà les vraies paroles d'Alexandre Dumas avant justement qu'il ait la rédaction de cet immense roman qui a traversé le monde. Alors, la partie technique.
Eh oui, la partie technique, ça c'est important.
Donc, le conte de Monte Cristo est écrit et mis en scène par le duo Alexandre de la Patellière et Mathieu de la Porte. Scénariste sur le lucratif diptyque Les Trois Mousquetaires, adapté d'une œuvre de l'écrivain Alexandre Dumas. Et le premier explique. Ce que j'aime passionnément, c'est le prodigieux mélange des genres auxquels il est parvenu, car Le Comte de Monte Cristo est à la fois un roman d'aventure, un roman d'amour, une tragédie, un thriller, une comédie humaine et politique. Et l'interaction de ces genres dégage un souffle tour à tour romantique, drôle, ironique ou effrayant. Quant à Edmond Dantès, il échappe à la littérature, il appartient à la mythologie, à un univers quasiment fantastique. Il y a dans son personnage et son histoire un supplément d'âme, une poésie assez inexplicable. Donc le conte de Monte Cristo a fait l'objet d'une trentaine de transpositions sur un petit et grand écran. Évidemment, il y en a eu plusieurs.
J'ai pas fait
l'historique.
Il y avait des séries, non ?
Il y avait des séries télévisées, il y a eu des films. Mm-hmm. La plus récente, La Vengeance de Monte Cristo avec Jim Caviezel, date de 2002. Tandis que la mini-série de José Dayan avec Gérard Depardieu reste l'une des plus célèbres. C'est la dernière, interprétation. Mm-hmm. Donc, annoncé dans un premier temps au 11 décembre 2024, Le Comte de Monte Cristo a été avancé de 6 mois et sort finalement dans nos salles obscures le 28 juin. Donc, l'obsession première d'Alexandre de la Patellière et de Mathieu Delporte a été de conserver toutes les dimensions de cette fresque littéraire pour faire vivre aux spectateurs des émotions très différentes. Et les réalisateurs confient. Voilà pourquoi nous avons réalisé un seul film et non un diptyque, à l'image du page-turner qui constitue le roman. Il fallait que toute l'histoire se déroule dans un même laps de temps, que la tension amassée dans la première partie du film trouve son dénouement dans la même œuvre. Impossible de dire aux spectateurs « Sortez du château d'If et revenez dans 6 mois pour connaître la suite ». Ouais, ça c'est bien, je trouve.
Ouais.
Ça c'est chouette. Le Comte de Monte Cristo, c'est 1300 pages en folio, soit entre 3000 et 4000 pages d'écriture scénaristique, quand un scénario en compte 140. C'est comme si l'on vous ouvrait une bibliothèque en vous montrant de choisir un seul livre.
Tu m'étonnes.
Un exercice de gymnastique ultra passionnant mais vertigineux qui a représenté 3 ans d'écriture et de préparation. Et une autre difficulté était de rendre crédible l'idée qu'il est possible de ne pas reconnaître lorsque quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. C'était envisageable à l'époque de Dumas où la photographie était balbutiante. C'est beaucoup plus difficile pour notre époque saturée d'images. D'où notre questionnement initial. Doit-on prendre le même acteur pour les deux périodes de sa vie ? Et si on prend le même acteur, comment justifier auprès du public contemporain que personne ne le reconnaisse ? Et ça va être toute la gageure du film, évidemment. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur ce film, et à mon avis, qui va être un immense carton. Hein.
Voilà, et Pierre Niney a été entraîné par l'un des meilleurs...
Plongeurs.
Parce que effectivement, il y a une scène, je crois que c'est au début du film, alors je ne l'ai pas vu, hein, où il s'évade et il sort d'un sac sous l'eau.
Ah oui, c'est quand il s'évade de la prison, du château d'If.
Il
s'est passé pour le mort.
Je ne sais plus combien de temps sous l'eau, mais il a dû faire un entraînement très poussé pour pouvoir rester aussi longtemps. Donc ça a été fait
Par
l'acteur. Il a été entraîné
par un apnéiste.
4 minutes sous l'eau.
4 minutes sous l'eau.
En apnée, c'est cool.
J'imagine aussi qu'il a dû faire de l'équitation, de l'escrime et tout.
Petit régime aussi.
Petit régime.
Pour tenir.
Mais oui, quand il sort du château d'If, il ne va pas être bien gros. Hein.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, bravo en tout cas et super pour cette performance. Et c'est un excellent film qui nous attend. En tout cas, on a hâte de voir ces décors gigantesques qui ont été réalisés.
Et qui sont grandioses. Mmh. On va enchaîner ?
Avant, on va écouter la bande annonce. On va se mettre en 4D. On va se mettre en HD et puis on se retrouve juste après.
Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser.
Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès.
Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres.
Je suis innocent ! J'ai rien fait, je suis innocent !
Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort.
Qui êtes-vous ?
Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune ? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine ?
À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous ? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts.
Prêt à faire quoi ?
À se venger.
Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo.
Albert, que sais-tu de cet homme ?
Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier.
Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient ? Où il va ?
Vous n'avez donc aucune pitié ?
Et eux, l'ont-ils eu pour Edmond Dantès ?
Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance.
Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie.
Voilà, à voir sur les écrans à la brèche dès ce vendredi, forcément. Voilà.
Et je pense qu'il y aura du monde.
Ouais.
Oui, oui.
Le comte de Monte Cristo. Voilà. Eh bien, c'est noté pour cet excellent film qu'on a hâte de voir. Et on va enchaîner avec Maria. Deuxième sélection de la semaine, Pascal.
Alors, on va parler de Maria. Oui, oui, un film français d'une heure 40, un biopic drame de Jessica Pallu. Au niveau des acteurs, on va retrouver Anna Maria Bartolomei, Matt Dillon,
ben ouais.
Yvan Attal, Marie Gillin, Stanislas Mérard, Céleste Brunkel, Giuseppe Maggio, Hugo Becher. Pourquoi Matt Dillon ? Matt Dillon, dans le film, il joue le rôle de Marlon Brando.
Ah oui, d'accord.
Et ça, c'est marrant.
Okay, hein, ouais.
Un acteur qui joue le rôle d'un grand acteur. Alors, c'est l'histoire de Maria qui n'est plus une enfant, mais pas encore une adulte lorsqu'elle enflamme la pellicule d'un film sulfureux devenu culte, Le Dernier Tango. À Paris.
Eh oui.
De Bernardo Bertolucci. C'est un film qui est sorti en fait le 15 décembre 72. Elle accède rapidement à la célébrité et devant une actrice et devient une actrice iconique sans être préparée ni à la gloire ni au scandale. Alors c'est l'histoire évidemment de Maria Schneider qui a joué Le Dernier Tango à Paris avec Marlon Brando sous la caméra de Bernardo Bertolucci en 1972. Alors, j'ai pas mis mes papiers. Non, c'est bon, c'est pas là, j'en ai tellement. Donc, Maria est l'adaptation libre du livre de Vanessa Schneider. Tu t'appelais Maria Schneider aux éditions Grasset. Dans le film, Jessica Pallu a déplacé le point de vue et c'est le regard de Maria qui scande le récit. La réalisatrice explique. Dans son livre, Vanessa Schneider abordait sa cousine Maria par le prisme de l'intime, par le regard du témoin familial. Pour le film, je souhaitais déplacer ce point de vue et me focaliser sur Maria. Être dans son regard et ne jamais l'abandonner, faire la traversée avec elle. Le film est donc raconté uniquement à travers les yeux de Maria Schneider. Elle est de toutes les séquences. Il y a quelque chose chez elle qui me touchait profondément. Sa liberté, ses choix et leurs conséquences. Maria est une des premières comédiennes à avoir parlé. Elle a dénoncé les abus et personne ne l'a écoutée. Elle en parle très tôt, que ce soit dans le documentaire de Delphine Seyrig, Sois belle et tais-toi, au gré de ses interviews. Les films sont écrits par les hommes, pour les hommes. Cette parole s'inscrit dans une époque où il était impossible de remettre en cause la parole, la position de certains réalisateurs. On n'évoquait pas la place de la femme dans le cinéma, ni les dérives que l'on passait sous silence au nom de l'art. La création peut-elle émerger de l'humiliation, de la douleur et du mépris? Ce que le film interroge, ce sont les limites de l'art et l'utilisation d'une jeune comédienne et de la trahison qu'elle ressent. Et ces questions sont posées à travers le regard de Maria. Donc c'est l'histoire de Maria Schneider, donc au même âge que Maria Schneider lors du tournage du Dernier Tango à Paris, à 19 ans, Jessica Palu a rencontré Bernardo Bertolucci, puisqu'elle était stagiaire sur The Dreamers. Très admirative du travail du cinéaste, elle s'est souvent demandé comment il avait dirigé Maria sur le Dernier Tango à Paris. Et comme elle nous dit, donc, l'histoire de Maria Schneider m'a percuté sans doute parce qu'elle faisait écho à mon expérience des plateaux de tournage lorsque je travaillais comme assistante. Il y a encore une dizaine d'années, sur un plateau, il y avait peu de femmes. J'étais souvent la plus jeune et toujours entourée d'hommes. J'ai assisté à des scènes compliquées, des acteurs et des actrices humiliés, et j'ai ressenti moi-même l'emprise dont certains réalisateurs abusaient. J'ai vécu des situations qu'aujourd'hui je qualifierais d'anormales sans pour autant parvenir à m'exprimer. Alors, c'est vrai que l'histoire de Maria Schneider m'a bouleversée. Confie la cinéaste. Et elle ajoute, je ne cherche pas à accuser ni à juger, mais à faire avec l'héritage et à offrir un portrait de cette société à travers un regard inédit, celui de Maria Schneider. Alors évidemment, c'est un sujet d'actualité. Mm-hmm. Avec toutes ces affaires qui ont éclaté au niveau des réalisateurs, des acteurs, voilà, je ne vais pas les citer, mais voilà, qui sont soupçonnés un petit peu d'avoir abusé, on va dire, de leur notoriété. Mm-hmm. Donc, au niveau photographique, donc, Jessica Palu souhaitait une image très travaillée, mais qui ne soit pas trop esthétisante. Avec le directeur de la photographie, Sébastien Bouchman, elle a cherché une beauté brute au service des acteurs. Et comme elle nous dit, les photos de la photographe américaine Nan Goldin ont été une source d'inspiration. Son travail est empreint de liberté. Ses images sont vraies tout en étant très belles. J'ai imaginé une mise en scène pure et frontale dans les cadres pour faire ressortir Maria à chaque instant et créer une identification universelle au personnage. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur le film de Maria, donc, de Jessica Palu, donc, qui sera à découvrir à la Brèche cette semaine.
Avec Matt Dillon, on le rappelle.
Avec Matt Dillon, qui joue le rôle de Marlon Brando. Mais j'étais soufflé, mais j'étais bluffé quand j'ai vu le film annoncé. J'étais là, ah, ouais, quand même, il ressemblait vachement, en fait.
Ouais,
un petit peu, ouais, il y a quand même des airs. Ouais.
Et avec Yvan Rottel, hein, qui fait également son retour sur les écrans. Après Maria, on va retrouver une famille si particulière, la famille Hendrix.
Hendrix.
Avec un H.
Comme Jimmy, en fait.
Ben oui, je sais bien, il y a un petit jeu de mots là. Effectivement, c'est par rapport à une guitare, non? C'est pas un héritage de guitare, non?
Pas exactement, non. C'est par rapport à. Évidemment, c'est un rapport avec la musique.
Ouais.
C'est un rapport avec une guitare, évidemment, la guitare de Danny Moon dans le film, évidemment. La famille Hendrix. Un film français d'une heure 38, c'est une comédie de Laurence Arnay. Au niveau des acteurs, on va retrouver Laurence Arnay elle-même, Danny Moon, Ferdinand Redoulou, Jean Renard, Yannick Clara, Jeanne Arène, Émilie Artapinier et Oscar Kopp. Donc, quand son fils Henri menace de partir vivre chez son père, Justine l'embarque de force dans un road trip sur la côte atlantique avec son nouveau compagnon, Ludo, et son beau-fils, Joseph. Au programme des vacances, unir sa famille, recomposer coûte que coûte. Mais très vite, l'aventure déraille et Justine déchante. Pourtant, de ce chaos naît progressivement un groupe de musique, les Hendrix, dans lequel chacun libère sa folie. Cette nouvelle complicité permettra-t-elle à la famille donc atypique de trouver enfin son harmonie, point d'interrogation. Donc avec la famille Hendrix, Laurence Arnay a voulu parler de la recomposition familiale. Et à partir de là, la réalisatrice s'est demandé comment on pouvait faire. On pouvait faire donc une famille autrement en sortant du schéma traditionnel. En y réfléchissant, elle a choisi d'assumer la dysfonctionnalité. Et comme elle nous dit, ce qui signifie qu'en tant qu'adulte, on a fait sauter les verrous des conventions sociales, on s'est libéré. J'avais moi-même vécu un premier échec familial. Je ne voulais pas me rater sur le deuxième. C'est le point de départ de Justine. Elle culpabilise de la séparation avec le père de son fils et elle va donc tout faire pour le réparer et l'aider à retrouver l'envie de faire famille à nouveau. Différemment, quitte à l'embarquer de force dans ce road trip sur la route de son enfance dont elle est totalement nostalgique. Donc Laurence Arnay a commencé à écrire le scénario de la famille Hendrix seule pendant un an et demi, puis a sollicité Sarah Winkler, qui a mené un travail analytique sur les personnages et les enjeux. Et la cinéaste se rappelle. Elle dit toujours qu'une comédie doit avoir la même intensité narrative qu'un thriller. J'ai donc quasiment effectué un travail thérapeutique sur chacun des personnages pour qu'il n'y ait rien d'artificiel et que les bascules de conscience soient toutes légitimes. J'aime le cinéma qui me raconte des histoires crédibles et contemporaines. Quand ce n'est pas suffisamment réaliste, je me détache de l'histoire. J'ai besoin de croire profondément au parcours des protagonistes. Après ce travail passionnant avec Sarah, j'ai rencontré la merveilleuse Cécilia Roux. Ensemble, on est reparti dans les dialogues pour ajouter de la comédie, du rythme, de la surprise et de l'émotion. Alors, Laurence Arnay, donc en couple depuis 2018. Laurence Arnay, alors c'est la compagne de Danny Boone.
Oui, d'accord.
Ils avaient déjà collaboré sur Radin.
Ah oui, c'est vrai, exact.
La petite famille, ouais, ouais, et 8 rues de l'humanité. Donc, côté référence, Laurence Arnay cite Little Miss Sunshine, Captain Fantastic, Crazy, La Famille Tenenbaum, aussi, il était pas mal celui-là, ou encore À bord du Darjeeling Limited. La réalisatrice explique « J'adore la dynamique familiale prônée par ces films et la folie de certains profils psychologiques. C'est drôle, inventif et toujours si juste et émouvant. Et puis j'aime cette culture anglo-saxonne. J'ai moi-même une famille internationale. Ma mère est une Hollandaise farfelue, ma grand-mère est une Anglaise extravagante. » Vous n'avez pas pleuré. J'ai des cousins un peu partout, dans le monde, en Australie, au Texas, en Angleterre, aux Pays-Bas. Et certains sont aussi barrés que Spike dans Coup de foudre à Notting Hill.
Très bien.
Il doit bien se marrer.
Ah bah oui, oui.
Ça doit le faire quand même. Donc Laurence Arnay avait envie de jouer Justine, même si elle pensait qu'il serait trop difficile d'être à la fois devant et derrière la caméra. Oh, il y en a plein qui le font, entre parenthèses. Hein. La cinéaste a donc travaillé le rôle en amont pour se sentir plus en confiance pendant le tournage. Elle se souvient. Ça m'a beaucoup aidé, sur le plateau. J'étais très occupé. Je vérifiais la manière, le décor, les costumes. Je n'avais plus de temps d'angoisser sur mon jeu. Et une fois qu'on disait action, j'étais juste à fond avec mes meilleurs acteurs. Le fait d'avoir 1000 choses à gérer comme Justine m'a sûrement aidé à mieux transpirer la charge mentale. Et surtout, je n'étais pas seul. J'ai eu une équipe incroyable qui m'a divinement bien conseillé en préparation et tout au long du tournage. Ma script, par exemple, Juliette Beaumard, mais aussi mon chef opérateur, Guillaume Schiffman, ou encore Cyril Moisson, mon ingénieur du son. On était tous sur la même longueur d'onde. On formait un quatuor très complémentaire. Voilà une équipe qui j'espère, va gagner.
Ben oui, il n'y a pas de raison.
Voilà, j'espère que le film a cartonné. On lui souhaite bonne chance.
Oui, et puis ça va détendre un petit peu aussi ces bonnes périodes. On va découvrir ensemble la bande-annonce et on se retrouve juste après, Pascal, à la petite détour sur la famille Hendrix.
On a besoin d'air, là. Ça fait 2 ans qu'on trime comme des malades dans cette baraque. Henri veut aller vivre chez son père.
Ah, mon fiston !
Il est malheureux avec moi et c'est mon job de le rendre heureux. Donc, on part en road trip. Maintenant.
Maintenant ?
Ouais. Faut qu'on la soude, cette famille. On part tous les quatre en vacances, à l'aventure.
Plutôt crever.
Aïe ! Allez, c'est presque fini, chérie. Tu râles un peu, là, mais je te connais. Tu vas adorer.
On dort pas à quatre dans ce truc.
Mais si.
Maman !
Il y a 876 euros sur le compte, donc c'est largement suffisant pour une semaine.
Oh, on a monté un groupe de musique.
Ouais ! D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom.
Faudra un truc qui claque.
Family Recomposed.
C'est atroce. Bon, Laurent, vous êtes là ?
Bon, la répétition, agression physique, ça commence à faire, là.
On a une garde à vue qui s'échappe, besoin de renfort.
Je me barre chez mon père.
T'es relou, putain.
Et toi, ta gueule.
Wow.
Il a 15 ans, c'est l'âge. Lâche un peu.
Si je lâche, il s'en va.
Mais non, il s'en va pas.
Moi, des fois, ma mère, elle me manque. Je préfère quand même rester avec mon père.
Pourquoi ?
Parce que... il est là.
Ça y est, j'ai trouvé !
Les Hendrix.
Si canon !
Il adore. Ça l'emmerde de le dire, mais il adore.
Ouh, les Hendrix !
Voilà, la famille Hendrix. Avec une belle chanson de Roger Hodgson qu'on a pu entendre juste dans la bande-annonce. Une chanson de Supertramp. Hein.
C'est Roger Hodgson, bien sûr. Franchement, j'avais un oncle qui écoutait beaucoup de musique. Tout l'album est d'enfer, entre parenthèses.
Absolument. Avec un excellent Roger Hodgson, le chanteur leader du groupe. Allez, on va enchaîner avec notre rendez-vous.
Oui, un film silencieux.
Ah oui, c'est vrai, il faut pas faire de bruit.
Très silencieux.
Alors, taisons-nous. Je plaisante.
On va passer à la bande-annonce.
Ah, ça serait bien, ça. On va la passer après.
Tu as un blanc de 3 minutes.
Enfin, je jouais, c'est ça.
Sans un bruit, jour 1. Un film américain, 1h39. Drame, épouvante, horreur. De Michael Sarnowski.
Bien.
Horreur. Ah oui, oui. Ah non, mais surtout là, oui, non, parce que j'ai vu le film d'annonce. J'étais là. Au niveau des acteurs, on va retrouver Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff et Damon Unsnu. Alors, c'est pas compliqué, le script, c'est une ligne.
Pas de bruit.
S'il vous plaît, c'est trop petit poids, s'il vous plaît. Non,
silence,
c'est...
on tourne.
Découvrez comment notre monde est devenu silencieux.
Ah.
Alors, évidemment, c'est l'horreur, parce que... Je vais pas vous spoiler le film, mais...
Ah bah ouais, si tu parles pas...
Il y a des sales bestioles qui descendent du ciel.
Ouais.
Et en fait, qui traquent l'humain comme du gibier.
Ah.
Et en fait, ils se repèrent à leurs oreilles, si tu veux. Ils sont ultra sensibles. Donc, si tu veux survivre...
T'es une chauve-souris, ça, non ?
Non. Non, ils viennent d'une autre galaxie. Et si tu veux survivre, il faut vraiment pas faire un bruit. Sinon, t'es mort.
Tu fais une faute, hein, quand tu marches.
Ah, mais justement, c'est, ça va être là, tout le sport dans ce film-là. Donc, si le nom de Jeff Nichols a été confirmé à l'époque de John Krasinski, c'est finalement Michael Sarnowski qui a été choisi pour réaliser Sans un bruit jour 1. Et on lui doit notamment Pig, porté par Nicolas Cage. Et il confie. Je n'ai pas eu à me montrer très convaincant. John Krasinski a vu Pig et il a vraiment adoré. Il m'a alors tendu la main en me disant « Voudriez-vous apporter un peu de cette touche porcine à la saga Sans un bruit ?»
J'aime bien, ouais.
C'est joli. Il s'agissait simplement de trouver le personnage que je voulais suivre et de trouver ma vision afin de m'approprier cette histoire. John m'a vraiment soutenu en me laissant prendre la direction qui me plaisait. Dans mon film, les deux personnages entreprennent un voyage émotionnel et je pense que les deux premiers films avaient eux aussi cela. Et c'est ce qui permet au public de s'identifier et de s'attacher au personnage. Alors, Sans un bruit jour 1 n'est pas une suite, mais un préquel dont l'intrigue se situe avant celle de Sans un bruit et sa suite. Donc, silence, on tourne, et oui, mais en silence. Tourner un film silencieux n'a pas été le plus facile pour l'équipe.
Ah bah oui,
imagine le truc.
Ah oui.
Le réalisateur Michael Sarnowski explique. Sur le plateau, les gens n'étaient pas calmes. Lors des scènes d'émotion, c'était bien évidemment le cas, mais l'équipe était enthousiaste et loin d'être silencieuse. Je pense que le défi de la mise en scène silencieuse, c'est vraiment de s'appuyer sur les acteurs pour qu'ils soient capables d'apporter ces moments d'émotion sans utiliser de dialogue. Tu vois le truc,
ouais, c'est...
J'adore écrire de longues scènes de dialogue, mais il y a aussi quelque chose de très amusant dans le fait de vouloir dépouiller les scènes de dialogue et trouver comment présenter les personnages sans cela. Pour cela, il a fallu s'appuyer sur des acteurs incroyables que j'ai eu la chance d'avoir. Tout reposait donc sur les comédiens. Et si dans les précédents opus, il s'agissait d'une famille, les héros sont ici deux inconnus qui vont devoir créer un lien et apprendre à faire connaissance sans parler. Et là, tu le vois dans le film annonce, en fait, les deux personnages qui se percutent.
Ouais.
Et la première chose que la bonne femme, elle se relève et elle veut parler. Et tu le vois, il met sa main sur sa bouche.
Ah oui.
C'est ça le film annonce. Ouais.
J'ai vu, oui.
Et ça commence comme ça, l'horreur.
Ouais.
Donc Joseph Squid nous explique. Nous ne devions pas faire de bruit. Nous avons donc dû adopter de nouvelles techniques. Lorsque vous n'avez pas de langue pour communiquer, vous êtes réduit à un mode de communication très primitif. Et au final, c'est très amusant. Lupita Ngongo ajoute. Il faut vraiment être à l'écoute de ce qui se passe. Regarder, observer et réagir. Ce n'est pas écrit dans le scénario. Ce sont les nuances de notre communication en tant qu'être humain. Elles se sont accentuées parce que c'est tout ce que vous avez. Donc voilà un petit peu pour vous éclairer sur ce film, franchement.
L'avantage, c'est que tu n'as pas trop de scénario, quoi, en fait.
Mais bah, si, tu vas avoir un gros scénario. Mais par contre, le script, il est quasi inexistant.
Ah ouais, ouais, ouais.
Enfin, le script, je parle des dialogues.
Des dialogues, ouais. Ouais, donc tu n'as pas besoin de retenir quoi que ce soit.
Oh, ben si, je pense.
Si, les placements.
Si, les placements, mais la communication avec les signes.
Ouais, et puis les regards.
Et les regards également, quoi.
Ouais.
Donc voilà, un film intriguant, bien, ouais. Un film d'horreur, épouvante. Hein, donc ouais. Ça sera à découvrir La Brèche 7.
Donc c'est un film silencieux.
Absolument. Par contre, le dehors, ça fait du bruit. Hein.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Oui, les villas de bestioles, il faut vraiment du bruit. Oui,
je suis rassuré.
Ah, oui, ça hurle.
Il y a un peu de bruit. Hein.
Non, il peut être la pression quand même. Parce que d'un côté, en fait, tu vas passer d'un univers où c'est entièrement silencieux, parce que c'est une question de survie.
Mmh.
À l'autre côté, qui est extrêmement bruyant et qui sont les prédateurs, en fait.
Ah ouais. Hein? Ça me fait penser à un film, et le scénario était un petit peu différent, avec Will Smith et les zombies.
Oui, oui.
Mais c'était horrible. Hein. À la tombée de la nuit, il fallait pas sortir.
Oui, exact. Oui. Les zombies qui sortaient des
ouais.
Oui, des.
C'est juste la journée.
Des sous-sols, des immeubles.
Ouais. Lui, c'était un chercheur. Et le monde a mal tourné, quoi.
Exact. Oui. C'était un vaccin qui avait mal tourné.
Ouais. C'est un vaccin contre le cancer, je crois.
Et je sais plus comment. Invincible, non ? Non, c'est pas invincible.
Non. C'est.
Je sais plus. Mais il est super bien.
C'est un très bon film. Ouais. Et franchement, ouais. C'est même angoissant. Je suis une légende, tout simplement.
Je suis une légende, exact. Oui, Et grand film, grand film. En plus, la scène finale est d'enfer, en fait.
Ah ouais, c'est ça.
Donc voilà, pour vous faire peur, hein, donc.
Allez-y, vous
sans
restez
un bruit,
éveillé
donc,
et vous
Michael
ne parlerez
Sarnowski.
Pas. Voilà. On va retrouver les guetteurs cette semaine à la brèche. Hein.
Alors, pour rester dans les joyeusetés.
On va en forêt.
Absolument. Nous allons en forêt.
Les guetteurs.
Les guetteurs. Alors, pareil, toujours dans la même veine, film américain d'1h42, fantastique, épouvante, de Ishana Shyamalan. C'est très dur à prononcer.
Bah, j'imagine.
Mais son père est un grand réalisateur.
Ah
oui, absolument. Au niveau des acteurs, on va retrouver Dakota Fanning, Georgina Campbell, Olwen Tuere, Oliver Finnegan, Siolan Hewlett, Anna Howland, Shane O'Regan et Sean Milleg. Donc perdue dans une forêt, Mina trouve refuge dans une maison déjà occupée par trois personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par de mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout. Ouais, chaque nuit, ils sont obligés de se coller à la vitre. Pour se faire surveiller. Bon, c'est marjo. Oui. Hein.
C'est fou, ça. Non, c'est pas mieux.
C'est pas mieux que l'autre film. Là, il ne faut pas faire de bruit. Mais là, par contre, il faut se coller à la vitre.
Ah ouais. C'est assez étonnant. Ouais.
Donc, Les Guetteurs est le premier film d'Ishana Shyamalan, le film du maestro du suspense, M. Night Shyamalan. Un début de carrière que le réalisateur de Sixième Sens a visiblement adoubé, puisqu'il l'a produit entièrement. Ce n'est pas... Oui, le Sixième Sens, tu t'en souviens ?
Ah oui, très bien, ouais.
Ce n'est pas leur première collaboration artistique, puisque Ishana Shyamalan a écrit et réalisé plusieurs épisodes de la série Servant, créée par son père en 2019. Et comme il nous dit, je travaille avec mon père depuis quelques années. On est parvenu à un très bon équilibre. C'est parfois difficile, mais aussi merveilleux, parce que nous sommes artistes tous les deux et que nous nous aimons très fort. Comme elle le confie. Donc, Les Guetteurs sort 2 mois avant le nouveau film de M. Night Shyamalan, Trap, qui sortira et qui raconte l'histoire d'un tueur en série qui se glisse dans le public du concert d'une chanteuse à succès. Une concurrence familiale loin de les déstabiliser, comme le laissait entendre le réalisateur. Comme il nous dit, sortir nos deux films quasiment en même temps est vraiment une coïncidence. Nous voulions donc les meilleures dates de sortie pour ces deux films. Il se trouve que les deux étaient prêts pour l'été. Warner a donc proposé que nous les sortions l'un à la suite de l'autre, d'où l'approche marketing l'été des Shyamalan. Shyamalan, c'est hyper compliqué. Donc à l'origine, Les Guetteurs est un livre éponyme de l'auteur de Monsieur Shine, paru en 2021 aux éditions Head of Zeus, un récit que la réalisatrice a lu et qu'elle a eu envie d'adapter dès la page 70. Ishana Shyamalan a tenu à rester très fidèle à l'univers du roman, le thriller horrifique et son genre de prédilection. Donc voilà un petit peu pour vous donner quelques indications sur ce film d'épouvante et d'horreur. Hein. Voilà. Donc là, ça sera à découvrir à la brèche cette semaine.
Restez collés à la vitre.
Collés à la vitre, en pleine nuit.
En pleine nuit, ouais. Surtout. On va retrouver une autre vie, notre vie que la mienne, tout simplement cette semaine à la brèche. Là aussi, une belle découverte. Vous allez pouvoir... découvrir, c'est un film polonais. Vous allez aussi retrouver en version originale sous-titrée.
Oh, toujours, bien sûr.
Ça, c'est bon. Ça.
Bien sûr, bien sûr. Une autre vie que la mienne. Alors, on l'avait déjà passé, ce film. Une fois, oui.
Très bien.
C'était une séance surprise. Tu sais, on fait des séances surprises tous les premiers lundis du mois.
Exactement.
Il en faisait partie. Ouais. Hein, il faisait partie du dernier, me semble. Donc, Une autre vie que la mienne, un film polono-suédois de 2h04. Hein, c'est un drame de Malgorzata Sumowska. C'est parti pour les acteurs.
Une grosse respiration. Ouais. Et...
Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver Malgorzata Agioska, Joanna Kulig, Jacek Brasiak, Mateusz Wiszewek et Bogumiła Bajor. Alors, c'est l'histoire d'Andrzej, qui est un bon mari et jeune père dans une petite ville de Pologne. De plus en plus mal à l'aise dans son corps, il tente de trouver sa véritable identité dans un pays passé en 3 décennies du communisme au capitalisme. L'histoire de quelqu'un à qui on interdit d'être soi-même. Là, c'est un film donc, qui traite du transgenre. Hein,
ah oui, oui, c'est vrai, tu en avais parlé tout à l'heure. Ouais.
Donc ça sera à découvrir à la brèche en version originale sous-titrée donc, cette semaine. Hein. Donc Une autre vie que la mienne de Malgorzata Sumowska.
T'es bien défendu, mon cher Pascal.
Je m'applique.
Allez, on va revenir évidemment sur un autre sujet. On en avait parlé déjà dans l'émission précédente d'Entr'Act. C'est le retour de Kevin Costner qui signe un film. Vous aurez votre opinion à la sortie de ce film. En tout cas, le challenge n'est pas forcément évident à relever parce que...
Non, parce qu'il s'embarque dans un truc qui est dans une production de plusieurs chapitres.
Alors moi, j'ai vu des... le film a été filmé de façon spéciale quand même. Les prises de vue sont relativement particulières. Alors, je ne dis pas qu'à l'époque, par exemple, il était une fois dans l'Ouest, il y avait des plans rapprochés, comme ça, on voyait les visages.
Ouais.
Et là, au début, sur une bande-annonce, on voit Kevin Costner, juste la caméra est en dessous du chapeau. C'est prêt.
Ah, des plans rapprochés.
Des plans rapprochés.
Ah ouais, c'est typique. Ouais.
C'est un petit peu la touche western. Enfin, on retrouve un petit peu cette philosophie-là.
Alors, Inès, combien de films a-t-il réalisé ?
Kevin Costner ? Oui. Alors moi déjà j'en connais un. Je dirais qu'il en a réalisé.
Oh non, t'en connais plusieurs. Tu m'as cité tout à l'heure. Tu m'en as cité deux.
Ouais, mais de toute façon, je vais dire 20.
Oh non, réalisé.
Ah oui, ça fait beaucoup.
Trois,
d'accord.
Il a réalisé trois. Je compte pas Horizon. Hein.
D'accord.
Le premier, 1990, immense carton. Les gens se sont rués dans les salles. Succès hallucinant.
C'est ce qui est passé à la télévision avec la chanteuse Whitney Houston.
Non.
D'accord, non. Alors...
Non. Dance with Wolves.
D'accord.
Danse avec les loups.
Oui, danse avec les loups.
1997. Bon, celui-là, il est passé un petit peu inaperçu. Postman.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Toujours dans un univers western, mais par contre, à l'époque contemporaine.
Ouais.
2003. Un film qui n'a pas franchement percé. Moi, je l'ai vu, je n'ai pas été super convaincu. Mais il est loin d'être mauvais. Avec Robert Duvall.
Oh, ils sont sur l'eau.
Non.
Non, ce n'est pas celui-là.
C'est un western. Hein.
C'est un western.
Ouais. Ah oui, il est très western, Costner.
Ouais, mais
dans la réalisation. Open Range.
Ah oui.
Open Range. Oui. C'est les deux cow-boys qui vont se venger, là.
Oui, exact. Ouais.
Alors, Horizon. Donc, film américain de 3 heures. Hein, c'est un
qui a été présenté
western.
À Cannes. Hein.
Il a été présenté, je crois qu'il était hors
compétition.
Hors compétition.
Hein,
ouais. Alors, au niveau des acteurs, on va retrouver évidemment
Kevin Costner. Qui est aussi chanteur, hein, je précise.
Ah, mais dis donc.
Très bon groupe.
On va retrouver Sienna Miller, Sam Worthington, Jenny Campbell Bower, Luke Wilson, Thomas Adam Clurell, Isabelle Fuhrman et Gina Malone. Donc sur une période de 15 ans avant et après la guerre de sécession, l'expansion vers l'Ouest est semée d'embûches, qu'il s'agisse des éléments naturels, des interactions avec les peuples indigènes qui vivaient sur ces terres, et de la détermination incroyable de ceux qui cherchaient à les coloniser. Et je dirais aussi, je rajouterais, et de la détermination incroyable de ceux qui voulaient défendre leurs terres.
Tu m'étonnes, ouais, attends.
Voilà.
Ça, c'est ouais, quand t'as des
étrangers qui arrivent
chez
balance,
toi,
pour établir la balance, hein. Oui. C'est important. Alors, Horizon. Donc, le film est présenté en hors compétition. Évidemment, il a été présenté à Cannes cette année. Donc, c'est une saga x 3 ou 4.
Il y aura des suites.
Oui, monsieur. Horizon, une saga américaine, le premier volet d'une série de 3 films couvrant les périodes d'avant, pendant et d'après la guerre de sécession. Si 4 longs métrages étaient initialement prévus, il n'y aura finalement que 3 pour une durée de près de 10 heures. Je ne te dis pas le nombre d'heures de rush.
Bah oui.
Ouais, tu peux multiplier par 100, je pense. La seconde partie sortira le 16 août 2024, tandis que le tournage du dernier chapitre a débuté seulement quelques semaines après la sortie du premier film. Donc le scénariste John Baird est également auteur de plusieurs romans comme Day Job ou Songs from Nowhere, Near the Heart. Mais surtout, ce n'est pas la première fois qu'il travaille avec Kevin Costner. Les deux hommes ont également coécrit The Explorer's Guide, Volume 1, un roman d'aventure illustré de 784 pages, publié en 2015 aux éditions First. Donc Kevin Costner a rencontré le chef opérateur Jim Murrow, alors seulement opérateur Steadicam, sur le tournage du film Jusqu'au bout du rêve de Phil Alden Robinson en 1989, sur lequel il n'est qu'acteur. Pour ses premiers pas comme réalisateur, Kevin Costner l'a ensuite engagé un an plus tard sur Danse avec les loups. Puis ils travaillent à nouveau ensemble sur Open Range, pour lequel Costner offre à Jim Murrow le poste de chef opérateur. C'est donc tout naturellement que le duo renouvelle sa collaboration sur les trois volets de Horizon, une saga américaine, pour la troisième fois. Et oui, on ne change pas une équipe qui gagne.
Ah oui, c'est normal.
Alors, de nombreux acteurs du film sont issus de tribus ou de nations indiennes, ce qui est très bien d'ailleurs. C'est le cas pour l'artiste mannequin et autrice Wassé Chief, issue de la tribu Oglala Lakota. Son père, Dave Yakima Chief, était d'ailleurs l'un des fondateurs de l'AIM, donc American Indian Movement, dans les années 60. De son côté, l'humoriste de stand-up Tatanka Mintz est originaire des nations Navajo. Oma Yankton Dakota et Oglala Lakota comme Wassé Chief. Enfin, Owen Krushu est membre de la nation Pikani et s'est fait connaître en réalisant les cascades The Revenant d'Alejandro F. Iñárritu en 2015. Eh oui, The Revenant, tu te souviens?
Ah oui.
Di Gabriel.
Ah oui, on rappelle.
Donc ce n'est pas la première fois que Kevin Costner s'intéresse à la période de la guerre de sécession puisqu'il a également produit la série The Grey House en 2003. Cette appétence n'est pas un hasard puisque le grand-père de Kevin Costner, natif de Noble Country dans l'Indiana, était à moitié Cherokee, une tribu indienne. Ceci explique cela.
Ah oui.
Le film évoque ce que les gens ont vu pendant cette guerre qui a plongé toute une nation en état de choc, dit-il. Donc le film traite de la manière dont 500 tribus amérindiennes ont été expulsées par les colons. Kevin Costner n'a pas voulu seulement aborder son film du point de vue des colonisateurs, mais également celui des Amérindiens, comme il l'explique. Il était essentiel pour moi qu'ils conservent leur dignité et leur férocité parce qu'ils se battaient pour préserver leur mode de vie, leur religion, leur existence. Il aurait été injuste, de ne pas le représenter dans leur beauté et leur mode de vie. Donc au niveau des sites, évidemment, Horizon, une saga américaine, a été tournée en grande partie dans les régions rurales de l'Utah et particulièrement dans la réserve des Shiwits, à l'ouest de Saint-Georges, près du fleuve de Santa Clara, à Moab, à Apple Valley et dans les environs du parc national de Zion. Méticuleux, Kevin Costner s'est rendu sur chacun des lieux au cours des repérages. Pour s'assurer que le décor correspondait bien à son scénario, l'acteur et réalisateur a été jusqu'à jouer sur place certaines scènes en campant plusieurs rôles à la fois. Ça a bossé. Hein. Donc depuis les années 1920, des milliers de tournages ont eu lieu en Utah. Ce n'est cependant qu'en 1949 que la commission du film de l'État a été créée et qui reste à ce jour la plus ancienne du monde. John Ford, tu vois, et John Wayne, deux monstres sacrés du western, y ont régulièrement tourné leur long métrage. Mais oui, mais toi, vous le verrez dans la bande-annonce.
Ah ouais.
Mais oui.
Ouais.
Tu le vois. Tu as vu ces décors plein de fois. Donc, si Kevin Costner s'est entouré d'une solide équipe de professionnels, la production de Horizon a également engagé des habitants de l'Utah pour de nombreux postes, comme régisseur d'extérieur, figurant, service de restauration, conduite et des chariots et des chevaux, constructeur, etc. Scott Perez a fait en sorte que chaque cheval soit choisi en fonction de l'expérience de son cavalier et de l'exigence de la scène. Kevin Costner, qui pratique l'équitation depuis de nombreuses années, a pu choisir sa monture, un cheval nommé Clark, qui provient de l'écurie personnelle du dresseur. Il a fallu 4 heures à l'équipe de la chef costumière Lisa Lovas pour confectionner le costume sur mesure de Kevin Costner et 4 heures supplémentaires pour la coupe et la doublure. En outre, pour être conforme à l'époque du 19e siècle, la costumière a délibérément abîmé les vêtements, tous fabriqués à la main pour donner le sentiment qu'ils avaient déjà été portés. Une vingtaine d'heures ont été nécessaires au tailleur pour confectionner les différentes pièces et ce, avant les retouches nécessaires, post-essayage. Et oui, il faut être méticuleux dans ce cas-là, parce que c'est franchement... Si tu te balades dans le désert en fringue toute neuve, on va pas te croire. Ouais.
Avec une montre. Une gourmette, ça passe pas.
Donc la chef costumière Lisa Lovas s'est d'autant plus investie sur tournage que sa famille est concernée par le sujet du film. En effet, son grand-père, médecin et photographe, a travaillé sur une réserve Navajo de 1925 à 1935 et soigné cette tribu ainsi que celle des Hopi de Tuba City dans l'Arizona. Donc évidemment, les conditions étaient quand même assez rudes. T'as des scènes d'hiver, tu sais. Ils jouent dans la neige et tout, hein, ça rigole pas. Hein. Donc les conditions du tournage dans l'Utah se sont avérées être particulièrement difficiles, notamment à cause des vents violents, comme le raconte Kevin Costner. Et oui, parce que dans les plaines, quand ça souffle, franchement, il n'y a même c'est pas belle, un arbre hein. pour te planquer.
Ouais, ouais.
C'est marrant ça, il n'y a pas un arbre des fois. Et comme il nous dit Kevin Costner, parfois jusqu'au moment où on s'arrêtait de tourner, je voyais que l'équipe se cramponnait au matériel et à la tente. L'horreur. Imagine le blizzard et tout.
Ouais.
Tu sais, des fois, ils perdent carrément des vaches, des troupeaux entiers hein, qui se perdent, qui meurent de froid dans le blizzard. Oui, monsieur, ça arrive des fois. Donc dans certains cas, même la tente s'envolait et on devait courir se mettre à l'abri. Sinon, tu meurs de froid. On parle dans cette région de mousson, autrement dit de vent qui souffle à 120 km/h et de pluie aveuglante qui nous obligeait à interrompre le tournage. Donc, Danny Houston incarne dans Horizon, une saga américaine, le colonel Houghton. Il est le demi-frère de l'actrice Angelica Houston, l'oncle de l'acteur John Houston et évidemment le fils du grand réalisateur John Houston, qui a entre autres signé Les Désaxés avec Marilyn Monroe, que j'ai vu au cinéma de minuit, entre parenthèses.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, pour financer ce projet qu'il a dans la tête depuis 35 ans,
35 ans. C'est un vieux rêve d'enfance.
Oui, 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 ça c'est un vrai rêve qui se réalise. Kevin Costner a engagé sa fortune personnelle.
Eh oui. Il a hypothéqué sa maison.
Et a notamment hypothéqué sa propriété.
Ah ouais.
Et comme il nous dit, j'ai commencé le script donc en 1988. Ça devait se faire en 2003. Mais au dernier moment, le studio n'en a plus voulu, a-t-il confié à l'AFP en mai 2024, au moment du Festival de Cannes. Le budget du film s'élève à 100 millions de dollars. Ben oui, trois volets, ça coûte un peu d'argent quand même. Voilà un petit peu pour vous guider sur ce film-là, la dernière création de Kevin Costner. Bon, voilà, moi, il me tarde.
Ah oui ?
Franchement, il me tarde, surtout de voir surtout le volet, enfin, comme je l'avais dit à l'émission précédente, comment il attaque là. Au niveau des Indiens, tout ça. Ouais, alors, évidemment, c'était très, très réussi avec Danse avec les loups. Hein, il y avait une approche assez ethnologique, on va dire, de ces Indiens-là, la Lakota. Et là, il me tarde de voir un petit peu comment il envisage la chose.
Ça fait un petit moment qu'on attendait Kevin Costner sur les écrans. Oui, il avait disparu un petit peu des écrans.
Kevin Costner, oui.
Je pensais qu'il s'était retiré totalement.
Non, tu vois, il a bossé. Il a bossé. Et voilà, il a peaufiné son écriture. Il est passé à l'action, c'est-à-dire au tournage. Et voilà, ça pète de couleurs. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. Il y a des très, très belles couleurs. Là. Il a un chef de la photo vraiment d'enfer. Hein. Enfin, tu verras sur le film annonce. Hein. Mais je pense que ça sera un bon film. Hein. Mais voilà, mais après, c'est un film de 3 heures, il faut pas oublier.
Ah oui, il faut le temps que.
Donc voilà, donc ça veut dire quoi ? Alors c'est périlleux, c'est piégeux, hein, 3 heures.
Ouais.
Parce qu'il faut du rythme.
Ouais.
Il faut du rythme.
Ah
donc,
oui.
C'est... Voilà, donc je pense que.
Ouais, mais.
On va voir.
Je me rappelle les grands chefs-d'œuvre du cinéma en matière de western, ça n'a jamais été trop court. Hein. Il était une fois dans l'Ouest, je crois que ça dure 3 heures.
Ah, une fois dans l'Ouest, oui, je crois qu'il faut aller les 3 heures. Oui. On est à ce niveau-là, ouais.
Avec une musique extraordinaire. Ennio Morricone.
Absolument. Donc voilà, Horizon, ça sera découvrir donc, à la brèche, donc, durant la fête donc, du cinéma, hein, qui se déroulera, je le répète, du dimanche 30, le lundi 1er, le mardi 2 et le mercredi 3. Le tarif est unique, hein, c'est 5 euros. Hein. Donc venez découvrir tout ça. Voilà tout ce qu'on a à vous proposer. Il y a vraiment beaucoup de films. Je les ai cités la semaine dernière. Voilà. Horizon sera joué aussi en version originale, hein, sous-titrée, évidemment.
Ah, oui, mais c'est très intéressant
de voir
Kevin Costner. Ouais.
Donc, à partir du mercredi 3, on le jouera Horizon. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc, pour la fête du cinéma, et puis après tout le long de la semaine, hein, en VO et VF.
On va découvrir ensemble la bande-annonce et on se retrouve juste après, Pascal.
Pas d'ici. T'as un problème ? Laisse-moi t'expliquer une chose. Dans ces territoires, des hommes te mettront à l'épreuve. Ils viendront te dépouiller jusqu'à ce que tu fiches le camp. Je pense que c'est quelque chose que tu devrais garder en tête.
Tu crois ça ?
Moi, nous sommes les gardiens de l'un des derniers grands espaces.
Il a l'air très prometteur, cet endroit.
C'est peut-être même un endroit où je me verrais bien vivre. Quand vous observerez cette rivière de plus près, vous y verrez ce que ces hommes et ces femmes y voient. C'est précisément ce qui nous a conduits à traverser les océans et à venir dans ce pays. L'espoir.
Lieutenant, vous n'avez aucune raison de rester. Et pourtant, vous êtes là.
Les hommes qui chassent sur cette terre ne les partageront pas avec vous. Ce que vous avez bâti, ils le brûleront.
On doit continuer d'avancer. Méfie-toi, ou quelqu'un pourrait te prendre ton arme et te la faire bouffer.
Quoi ?
Tu parles trop.
Voilà, Horizon, on est dans l'ambiance.
Ah oui, il y a du son, t'as vu, ça rigole pas.
Avec des plans, et ouais. Puis une voix aussi, la voix de l'acteur français qui, je pense, double aussi la voix d'Harrison Ford.
Ah oui, c'est vrai que ça y ressemble un peu au niveau du timbre.
Sur le dernier Indiana Jones.
T'as vu le chapitre 2, donc c'est le 11 septembre. Hein,
ouais, c'est vrai.
Pour la sortie, vite, hein. Et puis le 3 un peu plus tard.
Ouais, c'est bien. Mais c'est un petit peu comme les deux volets qu'on avait vus, les 4 mousquetaires. Très bien, Horizon, donc à voir avec Kenneth Costner qui sera de retour sur les écrans. Et ça, c'est chouette. Hein. Le temps passe vite, hein, Pascal.
Ça passe très vite.
Tu vois, on a réussi à charger l'émission, dernière émission de la saison, et avec beaucoup d'émotion en tout cas, puisque l'aventure a commencé un 21, je crois que c'était 21 octobre 2021.
C'est vrai, tu as une
belle
mémoire.
À peu près, pour la vérifier. Ouais,
tu as une bonne mémoire.
En tout cas, c'était en octobre 21, où on tracte Nessé sur les ondes de Radio Grand Air. Et bien des projets nous attendent pour la rentrée, évidemment.
Oh, absolument.
Voilà, on y travaille. Tu y travailles.
Oui, oui, j'y travaille. J'y travaille, je planche dessus. Oui.
Bon, voilà, on compte sur toi. Hein.
Ouais, oui,
bon, okay. C'est bon, tu peux signer là.
Je vais signer.
Voilà, donc beaucoup de rendez-vous à la brèche durant cet été. Profitez-en. Tu l'as dit, la fête du cinéma, c'est important. Prix 5 euros. Hein,
mais c'est 5 euros, ouais, c'est misérable le prix. Donc, faut vraiment. Voilà, pas s'en priver, c'est le moyen de... Tu sais, il y a des gens qui viennent et qui restent toute la journée.
Ah ouais.
Ils vont de salle en salle. Putain. Ouais, parce qu'on a la journée entière de cinéma. Fait une belle journée cinéma. Ouais, ouais. Et donc voilà, ouais, faut pas s'en priver. Venez en famille, venez avec vos enfants, venez seul, vous serez les bienvenus dans tous les cas. Voilà. Et donc, je répète quand même la date. Hein. Donc c'est le dimanche 30, lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3. Et tu vois, cette année, ils ont rajouté un jour.
Ouais. C'est bien.
Ils ont rajouté un jour, c'est le mercredi d'ailleurs. Parce qu'avant, c'était dimanche, lundi, mardi.
Ouais. Enfin. Bon, c'est bien de prolonger
donc,
un petit peu.
Mais oui, c'est bien. Oui, comme ça, ça permet de faire découvrir ceux qui ne vont pas trop au ciné, tu vois, de pour un prix modique, d'aller voir des films. Puis peut-être d'aller découvrir votre cinéma de quartier, voilà, découvrir les salles, voilà, rencontrer du monde, rencontrer le personnel.
Rencontrer Pascal, par exemple.
Non, mais je parle au niveau national. Ouais. Au niveau national, et puis voilà, si jamais vous êtes en balade aussi, sachez que l'opération, elle est nationale.
Et oui, exactement. Nationale.
Donc,
que vous soyez en
vacances
sur la plage
en
le sud.
Partout en France.
Ouais. Allez-y, le cinéma, c'est toujours bon pour la santé.
Bien sûr.
Et bien Pascal, je te laisse le mot de la fin. Pour conclure cette saison.
On va conclure cette saison avec une certaine émotion, évidemment. Alors, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air. Et mais que dire, passez un bon été. Voilà, je vous souhaite tous un bon été. Voilà, passez du temps en famille, profitez des vôtres, vraiment, c'est important. Et voyagez pour ceux qui le peuvent.
Changez-vous les idées.
Voilà, nous, on bosse, dans tous les cas, on bossera, on est à la brèche pour vous, pour faire passer des films, dans tous les cas, on sera présents. Et puis, moi, je vous souhaite à tous un super été. Vraiment, éclatez-vous, riez, allez vous balader. Et voilà, prenez du bon temps, c'est important en ces temps fort troublés.
Merci, Pascal. Et on t'amènera dans les valises, évidemment.
Ouais,
je disais
super.
En podcast.
Moi, je veux bien.
Hein. C'est bon. Pour écouter en tract, les émissions sont en ligne depuis le début sur le site de la radio. À très bientôt pour de nouvelles aventures.
À très bientôt, Christophe. À très bientôt pour de nouvelles aventures.